18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Sologne, terre d'identité de qualité, le magazine éco-innovation de Méga FM en partenariat avec le pays de Grande-Sologne. Ce soir, autour de la table, nous allons tenter d'y voir plus clair sur la notion d'efficacité énergétique. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien parce que le constat est sans appel. La maîtrise de l'énergie est devenue une véritable politique d'urgence. En effet, d'ici 2050, la demande mondiale d'énergie devrait doubler en France. La construction de nouvelles centrales nucléaires ne suffira pas à satisfaire cette demande ni à pallier à la diminution des énergies fossiles. Et parallèlement à cela s'inscrit la réduction des émissions de CO2 de moitié pour limiter le réchauffement de la planète. Alors comment répondre à ce dilemme en mettant en œuvre des solutions d'efficacité énergétique ou comment faire plus et mieux avec moins de ressources? Est-ce seulement possible? Qu'en est-il du particulier et des collectivités? Au niveau local, comment se positionne le territoire de Grande-Sologne et qui se charge véritablement d'apporter ces solutions? Alors autant de questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Alors nous avons juste devant moi Clémence Gondran, qui est conseillère info-énergie à l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement, et Emmanuel Brochard, directeur du CAUE, le conseil en architecture et urbanisme et environnement. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors on va commencer peut-être avec vous, Emmanuel Brochard, donc directeur du CAUE. Première question, on parle donc d'efficacité énergétique. Quelles sont peut-être déjà les missions du CAUE et comment justement parlez-vous, apportez-vous des solutions pour cette efficacité énergétique?
Les missions du CAUE, c'est un organisme de conseil parapublic mis en place et soutenu par le Conseil général qui aide particuliers et collectivités dans tous les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc ça, c'est... Ce sont le cadre des missions et on intervient en conseil pur. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour aider les gens, les collectivités, toutes les personnes qui ont des projets ou qui réfléchissent en tout cas à ce qu'ils vont mettre en œuvre sur les bonnes manières de pouvoir avancer et quelles sont les procédures à mettre en œuvre par derrière puisque nous ne faisons pas de maîtrise d'œuvre. À la question que vous me posiez, est-il des solutions? Ben, si les solutions étaient simples, ça se saurait.
Hein. Alors, on est bien d'accord. Alors c'est vrai qu'en termes de construction, on entend parler d'une nouvelle norme justement pour la maîtrise de ces énergies, cette maîtrise, la RT 2012. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Alors je me tourne peut-être vers vous, Clémence Gondran.
Donc en effet, la réglementation thermique 2012 sera applicable pour les particuliers, pour les constructions neuves, à partir de janvier 2013. Et en fait, il est demandé d'avoir une consommation de 50 kWh par mètre carré par an pour les logements. Donc en effet, c'est une consommation qui est faible. Par rapport aux constructions actuelles.
Alors justement, est-ce que cette nouvelle norme, la RT 2012, c'est quelque chose qui oblige le particulier à venir vous consulter, vous le CAUE, Emmanuel Brochard?
Oui, en relation avec le point info énergie de la Lille, absolument. Mais je voudrais quand même relativiser les choses. Effectivement, les nouvelles normes RT 2012 et RT 2020, qui font obligation aux collectivités de s'inscrire dans ces préoccupations fortes de diminution de la consommation énergétique, ne représentent qu'une très faible part du parc du logement. Dans le territoire de Sologne, on doit construire 3 ou 4% de logements neufs par an sur l'ensemble du parc. Et donc la question centrale, c'est pas tant de maîtriser les nouvelles constructions qui se font que de réfléchir au parc existant.
Pour la réhabilitation, en fait.
Parce que on est en cœur d'un débat sur la transition énergétique que vous avez dû entendre sur les radios avec toutes les questions qui se posent, à savoir comment on fait demain et quelle est la situation actuelle. On voit bien que la situation actuelle, c'est que la consommation d'énergie, elle est d'une part sur le logement et d'autre part sur le transport. C'est les deux plus gros producteurs, en tout cas, d'énergie. Et puis, c'est aussi les gros producteurs de gaz à effet de serre. On ne pourra pas dissocier les questions énergétiques de la question des gaz à effet de serre. C'est une préoccupation qui arrive de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les plans climat vont devenir obligatoires. La région en a fait un. Les territoires n'ont pas obligation d'en faire, mais quelque part, ils vont rentrer dans cette grande réflexion globale de comment, d'une part, on consomme l'énergie, comment, d'autre part, on diminue la production de gaz à effet de serre. Et quand on revient aux constructions, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement avec les normes, qui sont faciles, mettre des normes très strictes sur la construction neuve, c'est pas très difficile, ça se met en œuvre. C'est compliqué parce, tout simplement parce que les constructeurs s'adaptent et le temps d'adaptation n'est pas facile. Mais globalement, ça se fera. Les obligations qui sont faites pour les collectivités RT 2020 de faire des bâtiments actuellement RT 2012 50 kWh, RT 2020 positif. Ça se fera. Sauf que les collectivités font très peu de bâtiments neufs. Et que les particuliers, je vous dis, c'est 3%. Donc on voit bien que la question reste centrale. Sur quoi on agit, comment on fait et comment mobiliser tous les acteurs.
Alors justement, la question, vous la posez. Quelles sont les réponses, par exemple, Clémence Gondran? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? On parlait, Monsieur Brochard parlait finalement des réhabilitations. Finalement, comment ça se passe?
Donc nous, en effet, dans le cadre de notre conseil, donc c'est l'ADI, l'Espace Info Énergie, une association donc qui renseigne le grand public sur toute question relative au logement. Donc on fait un conseil neutre et gratuit. Pour la partie donc de l'Espace Info Énergie, c'est un réseau qui a été mis en place par l'ADEME pour conseiller les particuliers sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables et les aides financières mobilisables. Donc nous, en effet, on est amené à rencontrer des particuliers qui ont des projets de rénovation ou de construction et qui souhaiteraient savoir comment ça peut partir pour de la conception du logement, l'isolation, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les aides financières mobilisables. Et pour la rénovation, en effet, ce serait savoir quels sont les matériaux existants, par où commencer, quels sont les critères techniques à respecter. Voilà, ce genre de questions, en effet, auxquelles on est amené à répondre.
Bien sûr, et c'est souvent ces questions-là qui reviennent. On vous sollicite beaucoup.
Oui, on nous sollicite beaucoup, en effet, pour ce type de questions. Mais après, l'ADIL, c'est aussi un conseil juridique. Où là, en effet, il y a des juristes qui conseillent donc sur, par exemple, le rapport locatif. Donc, ça peut être les bails, les loyers, les charges, les impayés de loyer, les démarches pour obtenir un logement. Ou encore sur l'accession à la propriété. Donc, ça va être le financement, la fiscalité, la copropriété ou encore les relations de voisinage.
D'accord, donc c'est quand même très très large. En tout cas, votre mission est plutôt large, ça c'est sûr. Mm-hmm. Alors, je me retourne vers vous, Emmanuel Brochard. Vous évoquiez le fait qu'il y a également l'effet de serre qu'il fallait gérer et tout. On parle d'efficacité énergétique. On voit bien que les villes évoluent aussi. Est-ce que ce sont des termes qui sont compatibles? Efficacité énergétique et évolution urbaine?
Oui, c'est compatible. Et c'est difficile. Parce que autant on peut maîtriser l'habitation, autant on peut dire l'habitation neuve, on va lui mettre des normes, c'est simple. Autant l'habitation ancienne, c'est compliqué. On parlera de la réhabilitation tout à l'heure pour voir de quelle manière intervenir sur ces questions-là. Autant la question de l'urbanisme, c'est-à-dire de savoir comment font les villes, est un problème majeur. Parce que la ville, c'est autre chose que l'accumulation de maisons, quoi. À la limite, on pourrait très bien avoir des tas de petites maisons bien isolées sans que ça fasse une ville. Et donc, la question de la ville se pose. Quelle est la forme urbaine, pour prendre un peu un jargon? Comment assembler les maisons? Quelle est la forme urbaine qui peut être propice, en tout cas, à des préoccupations énergétiques? La Sologne a des typologies très fortes, avec une construite au 19e, avec des architectures de briques, avec pas mal de bourrues. Le bourru, vous voyez, c'est construit le long de la rue. Pourquoi? Parce que la Sologne s'est construite, les trois quarts des communes se sont construites là où il y avait les carrefours, là où il y avait le passage, là où il y avait la circulation. Donc on a fait des bourrues, quoi. Et ces bourrues se sont agrandies. On a quelques bourgs qui diffèrent un peu, comme Chaumont-sur-Tharonne, qui sont un peu liés à une histoire ancienne, comme autour d'un oppidum, Nain-sur-Beuvron. Mais globalement, c'est le bourru qui est quand même assez prédominant. On ne peut pas imaginer demain qu'on puisse faire des formes urbaines qui soient déconnectées de la réalité du terrain.
De l'identité, en fait.
L'identité structurelle. On ne peut pas imaginer demain, soyons un peu provocateurs, si la Sologne n'avait plus que les pavillons neufs dans les lotissements et qu'il n'y avait plus de bourru, on dirait, elle est où la Sologne? Bêtement. Donc on se rend bien compte de la difficulté des deux. Alors, premier champ, qu'est-ce qu'on fait du bâti ancien? Et deuxième champ, qu'est-ce qu'on fait du neuf? Le gouvernement a inventé et imaginé une belle machine qui s'appelle les éco-quartiers. Pourquoi ? Parce qu'il essaie d'attraper cet objet. Non pas l'objet architectural, il y a des normes, mais l'objet urbain. Et l'écoquartier, c'est quoi ? Ben, c'est pas simplement la question du logement, c'est la question des déplacements qui pèsent. C'est la question de l'impact de la ville sur l'environnement. Et là, on croise d'autres champs qui sont les champs d'artificialisation des sols, par exemple, de consommation d'espace. Donc, on voit bien que c'est multiple. Mmh. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, pour faire quelque chose dans des écoquartiers, c'est, je dis facile, non. Mais en tout cas, on sait, on commence à savoir les faire dans les très grosses villes. Quand on arrive à des petits territoires comme Barcelone, dans les petites villes, la question de la singularité, de la capacité financière des collectivités à pouvoir faire ça est quand même un peu plus compliquée. Y a-t-il un écoquartier typical
typiquement soloniaux?
Soloniaux, non. Il faut l'inventer. Il faut l'inventer. Parce que il y a à la fois la forme urbaine, mais derrière la forme urbaine, il y a des pratiques. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont des usages, des choses un peu singulières. Et ça, on n'inventera pas quelque chose, un modèle qui soit importé. Et puis, pour continuer un peu, non pas pour le plaisir de complexifier, mais simplement pour décrire les choses. On voit bien que la Sologne, du nord au sud, est traversée par des courants divers qui sont liés à l'influence des zones métropolitaines. Je dis métropole parce que tout est métropole, mais on voit bien que l'aire urbaine d'Orléans arrive, mm-hmm. C'est arrivé au nord de la Sologne, c'est à la mode, ça atteint, ça décore encore au sud, et que les gens qui viennent ici, qui viennent habiter ici, ont dans leur tête des pratiques urbaines qui ne sont pas forcément les pratiques actuelles. Alors, c'est compliqué tout ça. Et donc, comment on peut construire tout ça avec une société qui bouge énormément, qui se déplace incroyablement, et donc qui consomme l'énergie, parce que la société n'est fondée sur la consommation énergétique. Donc, vous voyez, il faut agir sur beaucoup de choses. Ça devient une jolie complexité. Alors, revenons à des choses très simples. Comment agir ? Nous, le conseil des particuliers, on voit bien que l'enjeu de la réhabilitation est un problème. Claire, on ne sait pas comment l'attraper. Et on voit bien que l'enjeu de la réhabilitation, ce n'est pas simplement de dire « j'isole ma maison ». Parce que quand vous isolez une petite maison soloniote, il ne reste plus beaucoup d'espace à l'intérieur. Faut-il l'isoler par l'intérieur, par l'extérieur ?
Alors justement, à propos de ça, le CAE avait été missionné par le Pays de Grande-Sologne pour lancer un concours à destination des étudiants en architecture qui devaient, entre guillemets, plancher sur des maisons de type soloniaux et apporter une pièce en plus.
Voilà, parce que
c'est des petites solutions, des petits.
C'est absolument. L'idée qu'on a mis au point, qu'on a construite avec le Pays de Grande-Sologne, on leur remercie d'avoir attrapé et d'avoir initié cette idée, c'est de dire les maisons soloniotes, le bâti ancien, il faut s'y intéresser. Si on s'y intéresse pas, on va croire que l'idéal, c'est de construire son pavillon à l'extérieur, ce qui est un peu déstabilisant, quoi. Donc l'idée de réhabiliter ça, c'est de se donner les moyens de se le réapproprier. Il y a deux défis. Premier défi, est-ce que les espaces intérieurs sont suffisants pour y vivre ? On voit bien qu'on n'a pas la même vie qu'il y a un siècle, et que donc la taille des pièces n'est pas la même.
La taille, l'agencement. Voilà,
l'agencement, le séjour. Mmh. On pourrait discuter de ça longuement. Ensuite, la deuxième question. Et donc tout le monde, à un moment donné, sur ces maisons-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une véranda, ils font une pièce en plus. C'est logique. Hein. Mmh. On achète une maison ancienne, qu'est-ce qu'on fait ? Une véranda. Deuxième chose, les questions thermiques. Et donc, on, avec le Pays de Grande-Sologne, on s'est dit, dans la poursuite de son programme sur l'éco-innovation, on s'est dit que attrapons ça par bêtement ce que les gens font, la pièce en plus. Mmh. En se disant, si on fait une pièce en plus, d'une part, on va donner la capacité à vivre, et d'autre part, on va se donner les moyens de revisiter le bâtiment en question thermique. Et donc, pour faire ça, on s'est dit, il faut un regard neuf, et donc on a appelé des étudiants en architecture de Strasbourg et de Dresde. En Allemagne, pour regarder de quelle manière ils voyaient ça. Et on s'est dit, en plus, la pièce en plus, il faut que ça soit en bois. Parce que c'est simple à construire le bois. C'est facile, c'est adapté à des petits projets, 10, 15, 20 mètres carrés. Et puis, ça peut demain peut-être générer une filière locale.
C'est ça. Les filières courtes, on en parle, et c'est important.
Filières courtes. Et donc, on s'est dit, lançons ça. On les a fait venir de très loin. On les a mis.
En situation.
En
six jours, on a fait un appel. Une semaine pour faire ça.
Oui, c'est ça. Ouais, on a fait un appel qui a été incroyable. On a fait appel à tous les particuliers en disant, est-ce que vous êtes d'accord? Sachant que nous, on a une connaissance assez fine du stock. On sait très bien quel nombre de maisons qu'on s'est construit avant 49, avant 74. Et donc, on avait six modèles. Et on a fait appel à six modèles. On a eu six candidats, des particuliers qui ont fait ça. Très, très bien qu'on s'occupe d'eux. Et avec enthousiasme, tout le monde a bossé. Et on a effectivement des réponses qui montrent que finalement, on peut se réapproprier le bâti ancien. C'est un des petits leviers. Derrière, ça coûte, c'est évident. Mais il y a quelque part, c'est un petit levier pour se dire, si je me réapproprie ma maison, avec une partie neuve, je vais revisiter l'ancien. Et donc, du coup, on va avoir un impact énergétique.
D'accord. Moi, je vous propose de marquer une courte pause, Clémence et Emmanuel. Et nous continuerons justement sur les réhabilitations des particuliers et puis le rôle que joue très fortement la DIL. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de l'émission La Sologne, terre d'identité de qualité, le magazine Éco-Innovation de Méga FM, donc en partenariat avec le Pays de Grande-Sologne, consacré ce soir à l'efficacité énergétique. Alors, je rappelle donc le nom de mes invités ce soir, Emmanuel Brochard, directeur du CAUE, le Conseil en architecture et urbanisme et environnement, et Clémence Gondran, conseillère info-énergie à l'ADI, l'Agence départementale d'information sur le logement. Alors, en première partie d'émission, Emmanuel Brochard, vous avez vraiment mis l'accent sur les impacts énergétiques, et surtout les différentes solutions qui commencent à émerger. Et on avait clos cette première partie, en tout cas avec le terme de réhabilitation, notamment du patrimoine bâti solonio. Voilà, réhabilitation, c'est quand même un mot d'ordre. Vous le disiez, on ne fait pas que des constructions neuves, il faut aussi réhabiliter l'ancien. Comment ça se passe auprès de la DIL, Clémence Gondran? Est-ce que c'est des choses qui vous sont demandées aussi, par des particuliers notamment?
Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, on parlait d'isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Donc là, en effet, ça va dépendre des budgets, des envies de chacun, sachant que l'avantage de l'isolation par l'extérieur, ça va diminuer les ponts thermiques. Un pont thermique, en fait, c'est une rupture d'isolant, et donc c'est vrai que l'enveloppe sera mieux protégée, l'enveloppe de la maison sera mieux soignée. Mais après, voilà, c'est vrai que suivant l'architecture, suivant le bâtiment, c'est plus ou moins faisable. Enfin voilà, donc surtout dans les vieilles maisons soloniotes qui ont beaucoup de cachets, les gens n'ont pas nécessairement envie de faire une isolation par l'extérieur. Donc par l'intérieur, en effet, ça peut être aussi une solution. Possible.
Alors, on parle d'efficacité énergétique, on parle aussi de performance énergétique. Est-ce que c'est la même chose, hein, ou est-ce que ce sont vraiment des choses complètement différentes?
Si, c'est lié, si. Efficacité énergétique, performance énergétique, voilà, c'est que la performance, elle peut être plus ou moins importante. Donc là, on parlait de réglementation thermique, la RT 2012. Il y a aussi donc les maisons passives, maisons à énergie positive, qui sont encore plus performantes donc que la RT 2005 ou la RT 2012.
Donc maisons passives, pour rappeler un petit peu le concept, en fait, la maison énergétiquement se suffit à elle-même, en fait. Il n'y a pas d'apport. L'isolation, les matériaux utilisés suffisent à maintenir la chaleur, à éviter les déperditions.
En effet, donc pour avoir une maison passive, il va falloir vraiment faire attention à deux postes. Donc ça va être déjà au niveau de l'orientation de la maison. Donc là, on parle de conception bioclimatique. Ça va être pour avoir un maximum d'apport solaire gratuit. Et donc pour cela, on va mettre exposer, bien orienter la maison, l'orienter plein sud avec les pièces à vivre, et on a mettre au nord un minimum d'ouverture avec ce qu'on appelle les espaces tampons. Donc ce sont des espaces qui sont peu ou pas chauffés, donc les garages, buanderies, toilettes, voilà, par exemple. Donc ça va être un premier point, et ensuite ça va être vraiment travailler l'enveloppe en isolant vraiment d'une manière très efficace vraiment tous les postes, hein, que ce soit les murs, la toiture, les fenêtres, le sol, et faire attention à l'étanchéité à l'air.
Alors peut-on rendre une maison réhabilitée passive? Est-ce que c'est
en général là, les résultats? C'est compliqué. Ouais. Voilà. En général, les résultats sont d'ailleurs on le voit par exemple pour les maisons basse consommation, il existe des labels. Et il existe un label pour le neuf et un label pour l'existant. Et le label pour l'existant est un petit peu moins exigeant que pour le neuf. Parce qu'en effet, quand c'est du neuf, il est plus facile de travailler sur du neuf que sur du de l'existant.
Alors comment devant finalement tous ces possibles hein, quand on est particulier ou même à la limite collectivité, quels sont les moyens de venir vous contacter? Est-ce que vous faites vous allez au devant des gens et proposer peut-être des animations en lien notamment avec le territoire de la Sologne hein, oui. pour justement sensibiliser le particulier?
Oui. Alors en effet, en partenariat avec le pays de Grande-Sologne, nous proposons donc plusieurs actions, notamment la visite d'une maison passive. Donc ça se déroulera le lundi 10 décembre à 14h45 à Vouzon. Donc ça se fait sur réservation, hein, le nombre de places est limité. Il faut nous contacter au 02 54 42 10 00. Donc là, c'est un particulier qui ouvre ses portes afin de présenter ses équipements. Nous, on apporte un appui technique et c'est vraiment une manière concrète et conviviale de voir comment on peut mettre en place les économies d'énergie dans l'habitat.
Et puis également le 20 décembre, alors là c'est plus vers l'extérieur que vous proposez une animation.
Donc oui, en effet, le jeudi 20 décembre à 18h30, on organise une balade thermographique à Saint-Viatre. Donc là, on se promènera aux alentours de les rues autour de la salle du Hara à Saint-Viatre, équipée d'une caméra infrarouge. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser de manière pédagogique les particuliers au problème des déperditions de chaleur donc dans l'habitat, dû notamment à une mauvaise isolation.
Alors donc ça, c'est pour les particuliers. Maintenant, c'est vrai que vous aviez évoqué, hein, Emmanuel Brochard, les collectivités aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les collectivités, il y ait, voilà, on appelle ça des audits hein, énergétiques? Est-ce que ça se fait?
Oui, ça se fait. Est-ce que ça règle tout? Non. Parce que pour compléter sur le plan architectural, on ne peut pas transformer le bâti ancien en bonbonnière. Hein. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que pour être le plus performant possible, il faudrait presque mettre une maison en thermos en disant tout est coincé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a la brique. L'isolant à l'intérieur, ça casse tout. La performance ne sera jamais exceptionnelle. Et puis derrière, il y a une réalité dont on prend pas totalement conscience, c'est que les matériaux n'ont pas été conçus pour être isolés. Et que les matériaux, ils respirent. Il y a des problèmes tout simplement de perméabilisation, il y a des problèmes de ventilation, et on voit bien que derrière tout ça, on sera jamais totalement performant dans le bâti. Tout jamais performant. La caricature, ça serait totalement performant, et on voit arriver des projets totalement invraisemblables, je le dis franchement, où on transforme du bâti ancien en bonbonnière en mettant du polyuréthane partout. Et donc, on fait une boîte dans la boîte, quoi. Mais c'est absurde, quoi. Et puis, au bout, il y a un problème tout simplement financier, c'est que quand on aura mis tout ça, on se rendra compte qu'il n'y a aucun retour sur investissement. Aucun.
C'est un constat plutôt négatif, hein, dites-moi.
Non, c'est la réalité. Il faut être lucide. La première chose à faire, c'est de mettre des pulls dans la maison. Ça devrait être obligatoire. Bon, donc mais tout ça pour dire que première difficulté, on sera jamais totalement performant. Donc il va falloir inventer des choses. C'est pas facile. Deuxième réalité, où est-ce qu'il peut y avoir des finances publiques? En gros, les collectivités pourraient s'intéresser à ça. On n'a pas encore trouvé totalement l'argument. Si on l'avait trouvé, là encore, ça se saurait. On voit bien que tous les débats qui tournent. Qui tourne depuis le Grenelle, hein, sur il y a un potentiel de travaux incroyable, chiffré entre 30 milliards et 1500 milliards, on n'arrive même plus à savoir les bonnes sommes. On ne sait pas où est l'argent. Donc il y a des problèmes financiers derrière. Et puis derrière tout ça, il y a bêtement des gens. Et je reviens aux gens. Comment les gens vont demain réagir aux questions financières? Comment demain ils vont se répondre à l'augmentation inéluctable de l'énergie? Comment ils vont faire? Et on voit arriver des gens qui chauffent pas. On voit beaucoup de personnes socialement qui n'ont pas énormément d'argent, des personnes âgées, qui ne se chauffent plus. Parce que quelque part, il y a un autre problème qu'il faut intégrer, et là on est sur la réflexion générale des collectivités, c'est la mobilité. Vous pouvez plus ne pas vous déplacer. Quelqu'un qui cherche un emploi, qui a besoin d'emploi, qui bosse, se déplace. Tout le monde se déplace. On ne peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? La voiture ou le logement? Ah ben, on va privilégier la voiture. Et donc, le logement va poser problème. Et un logement qui n'est pas chauffé, qui est en mauvais état, se dégrade. Alors, on a à la fois des personnes qui n'ont pas les moyens et on a des logements qui se dégradent. Comment on va faire? Je ne sais pas.
On
est en invention continuelle autour de tout ça. Je veux dire, on voit bien que les débats, ça tourne toutes les collectivités. Les grosses villes s'en emparent. Parce qu'arrive derrière, je reprends les plans climat. Parce que dans les plans climat, le bâtiment, c'est entre 40 et 45% des productions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et donc, quelque part, quand on fait un plan climat, il faut bien se préoccuper de ce bâti-là. Et les grandes villes s'en occupent. Dunkerque, Grenoble. Quand on arrive à la Motte-Beuvron et quand on arrive à la Ferté-Beauharnais, je ne dis pas que le problème va être encore beaucoup plus complexe. Donc, comment on fait ? Les solutions sont à inventer.
Alors, les solutions sont à inventer. Ceci dit, quand même, on invite les particuliers, notamment, c'était un petit peu le but aussi de cette émission, à venir vous contacter quand même. Je veux dire, même si ce sera très compliqué, on entend bien la complexité de la chose. Oui, il faut quand même essayer.
Mais oui, ils font eux-mêmes. Il y a la Lille, EIE pourrait vous parler des familles à énergie positive.
Oui, tout à fait.
C'est très intéressant, ça.
Donc là, c'est vraiment pour travailler sur les éco-gestes. Donc là, c'est un concours, un défi énergie que l'on lance pour la troisième édition cet hiver. Donc là, ce sont des équipes qui sont constituées entre 5 à 15 familles. Et chaque équipe a pour objectif de réaliser au moins 8% d'économie d'énergie par rapport à l'année dernière grâce aux éco-gestes. Donc là, il n'y a aucun investissement à faire. Mm-hmm. C'est vraiment grâce aux gestes du quotidien.
Voilà, changer un petit peu ses habitudes.
Oui, tout à fait. Et il faut savoir que les éditions précédentes, les équipes qui arrivaient à faire le plus d'économies arrivaient à réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie grâce aux éco-gestes. Donc je pense qu'au niveau des habitudes aussi, il y a beaucoup à faire, en effet.
Donc on s'aperçoit que c'est sur différents plans, de multiples plans, qu'il faut agir, pas seulement en termes de bâtiments neufs, mais aussi en termes de réhabilitation, en termes de gestes, éco-gestes, vous venez de le souligner. Donc beaucoup de possibilités quand même. On peut facilement contacter le CAUE, malgré tout ?
Absolument, on est dans les mêmes locaux que la DIL. Notre téléphone, c'est 02 54 51 56 50 et on est à disposition de tous ceux qui le souhaitent.
Et pour la DIL, peut-être un les coordonnées.
Donc on est vous pouvez nous contacter au 02 54 42 10 00.
Donc efficacité énergétique, vaste débat, c'est complexe, mais on peut y arriver aussi. Vous nous avez très très bien éclairé sur.
C'est l'enjeu de demain. Ça va monter en pression de manière absolument incroyable, faut pas rêver.
Et ceci dit, l'idée c'est aussi de pouvoir contacter des instances compétentes pour avoir en tout cas un éclairage et réponse à des questions. Merci beaucoup.
Merci.
Clémence Gontran et Emmanuel Brochard. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission sur notre site www.megafm.fr ainsi que sur le site du pays de Grande-Sologne. Excellente soirée sur MegaFM.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de Méga FM.